Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour. Heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Académie à l'Institut de France pour ce nouvel éclairage qui va nous permettre de partir à la découverte des centres financiers internationaux à l'épreuve de la crise financière. Pour ce faire, donc, j'ai le grand plaisir d'accueillir Vincent Remet, qui est donc le conseiller du directeur général de Next Euronext. Next Euronext étant la première plateforme boursière mondiale. Vincent Remet, bonjour.
Bonjour Jean-Louis.
Heureux de vous accueillir donc et d'avoir répondu à notre invitation. Je sais que par les temps qui courent, vous êtes extrêmement sollicité. Alors avant d'en venir sur le sujet, le thème qui nous occupe aujourd'hui, je voudrais rappeler que vous êtes donc diplômé d'un MBA d'une université américaine, une grande université américaine, et que vous êtes un banquier, non pas qui a mal tourné, mais enfin qui est devenu boursier. Alors je ne sais pas ce qui est de mieux aujourd'hui d'être boursier ou d'être banquier, mais en tout cas, vous avez fait les deux.
Tout à fait.
Bon, d'accord. Alors, vous êtes donc, à travers Nice Euronext, l'un des grands acteurs des centres financiers internationaux. Et je voudrais qu'on regarde ensemble, d'abord, qu'est-ce qu'un centre financier international ? Paris en est un. Qu'on parte à la découverte, principalement, donc, de Nice Euronext. Mais que nous regardions aussi, de notre côté, comment ces places financières résistent à la crise globale et mondiale et gigantesque. Et par ailleurs, peut-être même mieux, comment les places financières, les centres financiers internationaux peuvent peut-être contribuer à cette sortie de crise. Alors, on va peut-être commencer par présenter Nice Euronext, qui est en fait est né de la fusion d'Euronext et de Nice. Alors, vous pouvez nous dire d'avoir un petit peu d'histoire, en quelque sorte, pour nous remettre dans le bain.
Tout à fait. Donc, tout d'abord, merci de me recevoir, Jean-Louis. Donc, un petit historique sur cette entité noyée ici, Euronext, qui est très jeune, puisqu'elle va fêter en avril ses 2 ans. Donc, comme vous le disiez, elle résulte de la fusion de Euronext, qui elle-même résultait de la fusion de Paris, Amsterdam, Bruxelles, et après Lisbonne et puis le marché dérivé du Life à Londres. C'est devenu, donc après cette fusion, la première plateforme boursière mondiale et de loin. Le but étant d'avoir une offre globale dans un premier temps au travers de l'Atlantique, après peut-être avec des amis asiatiques, c'est en discussion. Le but de cette fusion est de pouvoir, comme d'habitude, faire des économies d'échelle et donner à nos clients des prix de trading les plus bas possibles et résister à la concurrence qui est plus féroce qu'elle ne l'a été. Donc voilà ce que fait Noyessi Euronext. Alors on traite des produits d'action en
alors
Europe.
On va donc y revenir. Avant, vous pouvez nous dire quels sont vos principaux compétiteurs. Vous disiez que vous étiez de très loin le premier mondial. Donc ça veut dire que derrière vous, c'est qui
Alors derrière nous, on a le Nasdaq
tout à fait spécialisé lui par contre. Alors
le Nasdaq qui nous a suivis en copiant notre stratégie puisqu'il a racheté la bourse, une bourse scandinave OMX après nous. Après on a notre ami et concurrent Deutsche Börse, donc la bourse allemande. Et après, on a aussi, alors, sans ordre de grandeur, et on a le LSE qui est la bourse anglaise, qui elle aussi nous a copié puisqu'elle a racheté la bourse italienne après nous.
D'accord. Alors vous adressez à quel type d'émetteurs ? De toute taille, de partout, enfin en zone géographique, ou est-ce que vous êtes spécialisé ?
Alors on s'adresse à des émetteurs de toute taille, que ce soit des grandes valeurs qui constituent le CAC 40, pour parler de celles qui sont à Paris, ou le Dow Jones pour celles qui sont à New York, jusqu'au ce qu'on appelle les small caps, donc quasiment des start-up, pas tout à fait, donc des toutes petites boîtes qui cherchent des capitaux.
C'est ça, et qui sont en croissance forte, etc.
Et qui sont en croissance forte.
Et, qui ont besoin de beaucoup de capitaux.
Donc, tout à fait.
D'accord. Alors, voilà donc pour votre cible de clientèle, donc extrêmement large. Donc, par ailleurs, vous avez 4 places de cotation.
Donc, on a effectivement des places de cotation. Alors, on en a 3 en Europe sur les actions. Donc, Paris, Amsterdam, Bruxelles et Lisbonne. Donc, ça fait 4. Et évidemment, une à New York.
D'accord. Alors, New York, c'est donc le New York Stock Exchange. qui, lui, est donc le plus grand marché au comptant, je ne sais pas si c'est au monde, mais enfin, en tout cas, en Amérique.
Tout à fait. Donc, c'est le plus grand marché, je crois, on peut dire, au monde.
Ouais.
Et donc, c'est pour ça que cette fusion avait beaucoup d'intérêt pour nous. La plus grande bourse européenne en termes d'actions et la plus grande bourse américaine en termes d'actions.
D'accord, d'accord.
Il y avait quand même un mariage qui allait de soi.
Donc ensuite, vous avez comme autre place de cotation Paris, c'est ça ?
On a donc Paris, Amsterdam, Bruxelles et Lisbonne.
D'accord, d'accord. Voilà. Au total, 4. Hein, okay. Je ne sais pas si vous avez un développement à faire particulier sur cette corrélation de places. Non, il n'y a pas de...
Bah, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une fusion de bourses qui ont vu l'intérêt de s'allier au niveau des bourses européennes. Après, comme je l'ai dit, on est venu s'ajouter à cette alliance un partenaire anglais qui est le marché des dérivés Life, qui est un des plus gros au monde et le deuxième en Europe, ou le premier, ça dépend comment on compte, en comparant avec le marché allemand.
Mais alors, l'image qu'on dirait le grand public de ce que sont les bourses, c'est-à-dire où on voit des gens qui s'agitent, qui courent de partout avec des papiers à la main, etc. Est-ce que ça n'appartient pas un petit peu au passé ? Parce que maintenant, j'ai aussi bien compris, bon nombre de vos places sont carrément toutes en électronique. Alors ça, c'est quand même la...
Oui, oui, tout à fait, absolument, Jean-Louis. Donc, à l'exception de New York, où pour des raisons de fonctionnement de marché, il y a encore ce qu'on appelle un floor, donc les gens à la crier, pour parler français, puisque c'est comme ça que le marché marche et comme ça qu'il est efficace. Mais en Europe, tout ça appartient au passé. Tout le monde se souvient du Palais Brongniart, avec la criée et les gens autour de la corbeille avec le cigare. Tout ça, c'est fini, c'est devenu un musée. Maintenant, tout ça est électronique. Le Palais Brongniart est vide, il n'y a rien, c'est un musée. C'est la même chose dans tous les autres pays de l'Europe, continentale ou pas d'ailleurs, puisque la bourse de Londres marche comme ça. Tout est électronique, ça n'est plus du tout spectaculaire. Et aujourd'hui, ce qu'on voit quand on montre des gens qui traitent, on les voit dans leur maison, c'est-à-dire chez BNP Paribas, chez Société Générale ou n'importe où. Voilà.
D'accord. Donc votre grande crainte, et la seule, c'est qu'à un moment donné, la mécanique électronique s'arrête. Et là, catastrophe. Mais ça, c'est encore jamais arrivé. Si.
Alors, ça peut arriver, mais on a évidemment...
des formules de backup, etc.
Dans tous les sens. Donc, le marché ne s'arrête jamais en cours de séance. Il s'arrête effectivement à 17h30, puisqu'on le ferme, comme chacun le sait. Mais à quelques incidents près, mais qui durent très, très peu de temps, le marché, il y a des backups dans tous les sens.
Parce que les volumes et les ordinateurs, ils doivent être relativement confortables et puissants. Parce que ça représente des flux absolument considérables.
Colossaux, absolument. Absolument.
L'outil informatique est au centre et donc peut-être aussi de la maîtrise des coûts, j'imagine.
Tout à fait, Jean-Louis. C'est une des raisons de la fusion avec New York, c'est de traiter un nombre d'opérations extrêmement important, d'avoir pu bénéficier de l'expérience des gros volumes de la bourse de New York sur les systèmes informatiques. Et donc d'avoir un système qui soit commun de chaque côté de l'Atlantique et forcément en nombre d'opérations traitées et en coût par opération. Plus il y en a, c'est l'économie d'échelle, moins ça coûte par opération.
D'accord. Et alors, par rapport justement à la situation de crise, est-ce que ça a altéré le niveau d'activité ou est-ce que, on va dire que la volatilité engendre au contraire des transactions supplémentaires ou est-ce que c'est, enfin, quelle est la situation en termes d'activité actuellement ?
La crise, si on prend l'année 2008 où on était en crise, si je prends Paris, l'affaire Kerviel, on a eu des volumes absolument colossaux puisqu'il a fallu déboucler ses positions, comme chacun le sait, énormes, donc en janvier 2008. La volatilité des marchés, comme vous le disiez, fait qu'on a eu des volumes en 2008 absolument extraordinaires. Après, effectivement, une fois que ça a bien baissé, les volumes sont moins importants puisque les gens sont tétanisés. Donc, on a vu des volumes en début d'année plus faibles que ceux qui étaient atypiques en 2008, mais plus faibles. Il faut pas se le cacher. Après, reste des volumes importants.
Donc, les marchés restent encore extrêmement sensibles et comment dirais-je, ne sont pas au bord de la panique, mais ils restent toujours extrêmement stressés, quoi, si je comprends bien.
Oui, tout à fait. Les gens sur les marchés sont très nerveux.
C'est ça, extrêmement nerveux.
Très nerveux, dans un moral plutôt pessimiste. Alors, c'est les marchés. Hein. Quand ils sont optimistes, ils sont contre vents et marées.
Exubérants.
Et quand ils sont pessimistes, ils sont aussi contre vents et marées. Donc, voilà.
On va peut-être parler d'abord de vos produits. Enfin, quels sont les produits phares que vous proposez donc, au marché ? Alors, je suppose que vous avez la palette complète. Mais vos produits phares, c'est quoi ?
Donc, nos produits phares, c'est effectivement les produits actions. On a ce qui aujourd'hui marche très bien en plus, c'est des produits, ce qu'on appelle les ETF, des OPCVM cotés. Et on a des offres spécifiques pour s'adapter à la directive MiFID, en étant un peu technique, qui réglemente maintenant le fonctionnement des marchés actions. On a après des offres de produits dérivés extrêmement performantes des deux côtés de l'Atlantique, le marché actions des deux côtés de l'Atlantique. Et on a une offre de compensation, en étant encore un peu technique, de gré à gré pour des produits type CDS, ceux qui sont à l'origine de la crise. Une offre absolument pertinente, oui.
D'accord. Et alors, si j'ai bien compris, vous êtes aussi un centre d'information des marchés en apportant des données de marché. Alors, ce que vous gardez pour vous ou que vous diffusez ?
Alors, on diffuse les données de marché, on diffuse les cours.
Ouais.
On diffuse,
ouais, mais est-ce que vous donnez d'autres éléments d'analyse, etc. ?
Oui, alors on diffuse des données en temps réel que l'on vend, ne nous le cachons pas, parce que le temps réel vaut cher. Et après, on a une offre de données qui ne sont plus en temps réel, qu'on vend mais moins cher, parce que ça vaut beaucoup moins cher. Et je crois que ça, c'est un point important, on met à disposition ces données historiques pour la recherche universitaire et académique qui est, à mon avis, extrêmement importante pour notre métier.
C'est ça. Et vous faites ça, je suppose, en tout cas, puisqu'on est à Paris, donc avec les gens d'Europlace, avec lesquels vous avez des synergies et qui eux-mêmes contribuent. Alors, Europlace, on peut rappeler d'un mot ce qu'est donc Europlace. C'est une association qui regroupe, on va dire, tous les professionnels. Hein, c'est ça, qui a été créée dans les années 90, semble-t-il, hein, et dont nous connaissons bien sûr, le délégué général Arnaud de Bresson. Donc là aussi, vous êtes en synergie avec les gens d'Europlace sur ce sujet.
Absolument, absolument. C'est-à-dire qu'on a avec Europlace des liens de longue date, puisqu'ils sont dans les mêmes locaux que nous. Ça aide beaucoup. Donc, moi, je passe pas mal de temps dans le bureau d'un autre Bresson. Alors, pour quelles raisons ? C'est qu'effectivement, ils aident à la promotion de la place de Paris.
C'est ça leur mission.
Tout à fait. Et d'Euronext, même si c'est plus large que la place de Paris, donc c'est tout à fait important. Et ils ont des initiatives tout à fait nouvelles. Et la dernière en date, qui a un an, et on est un des membres fondateurs, c'est ce qu'on appelle le pôle de compétitivité finance mondiale. Il y a des pôles de compétitivité plutôt à caractère industriel. Donc il y en a eu un sur la finance, c'est quand même très nouveau, pour permettre de trouver les produits de demain, ce qui est encore plus important aujourd'hui, en étroite collaboration avec les académiques dont je parlais il y a quelques instants.
D'accord, c'est ce qui m'a fait penser, effectivement. Voilà. Que vous avez un lien très très fort sur ce point. Et donc, Europlace organise chaque année des rendez-vous annuels partout dans les grandes capitales du monde, je suppose, vous participez avec eux sur ce sujet.
Complètement.
D'accord. Et tout ça, bien sûr, participe au rayonnement de la place financière de Paris. Donc là, vous êtes en pleine synergie. Alors, si peut-être, il y a un point que nous n'avons pas évoqué. Vous pouvez nous donner quand même une idée de la taille en personnel et en volume d'activité, quelques éléments, si vous les avez, concernant Nice Euronext.
Ah.
Est-ce que c'est un point qu'on n'a pas évoqué?
Oui, oui,
vous êtes combien dans le monde? Enfin, bon.
Ah, ça, c'est une
très bonne question.
Oui,
enfin, environ.
On doit être 2-3 000, puisque là, on a un permis d'activité qui bouge beaucoup, puisque lié à l'environnement qui bouge beaucoup, notre direction générale donc, s'adapte très, très vite. Et donc, elle est obligée d'acheter et de vendre certaines activités. On a vendu l'activité informatique, on a réinternalisé l'informatique pour être beaucoup plus efficace et performant, ce qui est le cas.
Donc, ce qui veut dire que le périmètre change assez régulièrement.
Voilà, donc alors combien on est, je
n'ai pas les chiffres exacts. Oui, mais c'est l'ordre 2, quoi. Entre 2 et 3 000 personnes.
Oui, à peu près, à vérifier. Et puis, en termes de volume traité, notre chiffre d'affaires, je crois, 2 à 3 milliards de dollars. Mais à vérifier,
Oui, c'est ça. Donc, déjà, ça situe la taille quand même de l'entreprise. Entre 2 et 3 000 personnes et entre 2 et 3 milliards de chiffre d'affaires, bon, on voit que ce n'est pas la PME du coin. Quand même. D'accord. Pour être leader mondial, effectivement, ça nécessite d'avoir des niveaux d'activité extrêmement forts. Et ce que vous êtes en train de dire, effectivement, c'est qu'il faut aussi avoir, même lorsqu'on est le premier leader mondial, un taux de réactivité par rapport aux évolutions de marché extrêmement fort.
Absolument. Et donc là, c'est ce qui se passe au jour le jour avec notre direction générale qui est très active, qui réagit au marché, qui a des offres qui correspondent aux besoins des clients.
Alors, le président de Nice Euronext vit à Paris ou il est à New York ?
Le CEO, donc le directeur général, est à New York et le directeur général adjoint qui est Jean-François Théodore est à Paris.
C'est ça. Voilà. Donc, vous êtes répartis les activités de cette façon-là. Quoi. Ça voilà. fait partie du compromis de fusion. En quelque
tout
sorte.
À fait. Il y a une parité qui a été définie.
D'accord, d'accord. Et qui reste.
Et qui reste, et qui reste tout à fait. D'accord, tout d'accord. à fait. Donc ce qu'on appelle. Un corporate de gouvernance équilibré.
D'accord, d'accord, voilà. Très bien, très bien. Eh bien, écoutez, Vincent Remet, dans quelques instants, nous allons revenir avec vous pour avoir votre regard sur cette crise financière. Ceci dans un court instant après cette pause. Merci à vous.
Jean d'Ormesson aime citer Peggy qui écrivait « Rien n'est plus vieux que le journal de ce matin et Homer est toujours jeune ». Éditorialiste, voué à l'instantané mais évitant toujours le cliché, romancier brillant et souvent déconcertant, prosélyte du plaisir en littérature, Jean d'Ormesson est aussi l'homme qui fit entrer les femmes à l'Académie française avec la première d'entre elles, Marguerite Yourcenar. Vous entendrez dans cet entretien avec Elisabeth Antebi que l'académicien de la française a toujours le sens de la pirouette quand on arrive à l'essentiel. Cette émission est en libre écoute et libre téléchargement sur canalacademie.com.
Vincent Remet, nous nous retrouvons dans cet entretien qui nous permet de découvrir le leader mondial NICE Euronext, qui a des liens très particuliers avec la place financière de Paris, et notamment à travers Europlace, Paris Europlace. Nous avons vu donc la dimension de cette entreprise, ses clients, son périmètre, ses principaux produits. Mais bien entendu, vous êtes un acteur privilégié, surtout un observateur privilégié du contexte très particulier dans lequel nous sommes aujourd'hui. Alors, quel est votre regard, regard croisé d'ailleurs? Avant de vous laisser répondre, je rappelle que vous avez été un des contributeurs avec Arnaud de Bresson sur la parution, pour la prochaine parution de l'ouvrage collectif édité par le Cercle Turgot. Et vous avez donc commis un article qui a été particulièrement remarqué. Et j'invite tous nos auditeurs à se précipiter chez les très bons libraires dans la première semaine du mois d'avril pour retrouver donc votre article dans cet ouvrage « Repenser la planète finance » qui est paru par une coédition de Erol et des Échos. Alors je reviens à ma question après cette digression. Donc quel est justement ce regard que vous portez sur la crise financière ?
Sur la crise financière, donc cette crise financière, elle vient d'un... Je ne vais pas être extrêmement novateur sur le sujet. Elle vient d'un principe qui était l'autorégulation des marchés, dont on voit que ça n'a pas fonctionné. Elle vient des agences de notation qui, je pense, n'ont pas...
Donc des acteurs qui, à un moment donné...
Qui ont un peu failli dans leur tâche. Si on prend les exemples des dérivés de crédit, dont les subprimes font partie, titrisation, je pense que la titrisation, et moi j'insiste, est un mécanisme qui a beaucoup d'avantages, puisque ayant été à l'accompagnement bancaire, un des pionniers, j'y ai vu toute la pertinence. Après, elle a été pervertie, c'est-à-dire que, pourtant, ayant un peu travaillé sur le sujet, et avec des collègues qui étaient vraiment des experts, on ne comprenait plus du tout comment les produits étaient montés. Et je pense que les clients ne le comprenaient plus, et à mon avis, sans doute à dessein. On leur vendait des produits compliqués, donc à forte marge. Donc, les agents de notation, pour moi, point de vue très personnel, je pense que... On a eu une période de liquidité extrêmement forte suite à l'injection qu'avait fait donc Alan Greenspan après les attentats de 2001. Une liquidité qui n'a jamais été retirée, qui a pesé sur le rendement des titres d'État, notamment américains, et qui a mis les fonds de pension américains face à des problèmes importants, puisqu'ils avaient besoin d'un certain taux de rendement pour assurer les retraites. Donc ils ont essayé de trouver des produits de substitution qui rapportaient plus en ayant le même risque. Ce n'est pas ce qu'on apprend en finance. En général, en fonction d'un certain risque, on a un certain rendement. Et donc on ne peut pas avoir un risque identique au titre d'État avec un rendement largement supérieur. C'est un peu de l'alchimie. Eh bien, l'alchimie, on sait toujours qu'à un moment ou un autre, le plomb se transforme en or et redevient du plomb. Donc c'est redevenu du plomb et le risque, on a retrouvé le risque. Et la titrisation et les agences de rating qui étaient payées pour donner des notes de triple A à des produits qui étaient en fait assez risqués, eh bien, à un moment ou à un autre, tout ça.
Oui, donc il y a eu une sorte de. Il n'y a pas un seul responsable. Chacun des acteurs a sa part, probablement, de responsabilité. Mais effectivement, s'ils ont pu dériver, c'est bien parce qu'ils étaient dans un contexte que permettait, enfin, très porteur, si je puis dire, dans le mauvais sens du terme, risque de cette liquidité qui était à la recherche de rendements totalement délirants.
Tout à fait, je crois que c'est absolument ça.
Néanmoins, les places financières résistent plutôt bien à la crise. Mais alors, au-delà de cette résistance, si je puis dire, qu'est-ce que, en tant que telle, les places financières peuvent apporter comme contribution à la sortie de crise ? Parce que vous, la sortie de crise, vous la voyez imminente ou relativement lointaine ? On est dans une courbe en V, en L, en U, on ne sait plus.
Ça, c'est une question extrêmement difficile. Moi, j'aurais tendance à penser, de par mon caractère optimiste, mais bon, l'avenir me donnera tort ou raison, que cette crise économique qui a suivi la crise financière, le fait de ne plus produire et avec une consommation qui se tient relativement bien, évidemment, elle n'est pas ce qu'elle a été, mais quand on consomme même moins, mais qu'on produit plus, il y a un moment ou un autre, il n'y a plus de stock, donc il va falloir en reproduire. Et je pense que ça va arriver relativement vite, c'est-à-dire sans... Je vais me lancer. Oui. Fin du deuxième trimestre de cette année.
D'accord. Donc, vous faites partie là, des vrais optimistes. Alors.
Voilà. Alors, après, on aura un rebond. Est-ce que, au lieu de faire moins 2 en croissance économique, on fera peut-être que moins 1. Ça veut dire qu'on aura fait plus 1 dans l'intervalle. Donc, c'est pas non plus. On va pas passer de moins 2 à plus 4.
C'est ça.
J'y crois pas. Donc, on aura sans doute un rebond. Je pense que ce rebond demande est-ce qu'il y a des conditions, notamment financières, puisqu'il va falloir refinancer des stocks. Donc, il faut que les banques puissent se remettre à contribuer. Autre signe positif, c'est ce qu'a dit Citigroup en disant qu'ils étaient redevenus bénéficiaires et les banques ont sans doute un début d'année relativement correct, pour le moins, d'après ce qu'on entend, à vérifier, bien évidemment. Alors, quel rôle pour les marchés, pour les bourses ? Je pense que les bourses ont un rôle, les marchés réglementés comme le nôtre, maintenant que grâce à notre fusion, on est très compétitif, on a une plateforme de trading extrêmement puissante et pas chère grâce à cette fusion et à ce que nous apportaient nos amis américains. Je pense que les marchés organisés et réglementés ont montré que si l'OTC a été gelé, les marchés organisés ont permis à ceux qui cherchaient la liquidité d'en trouver. Ceux qui avaient besoin de vendre ont trouvé la liquidité. On a toujours fonctionné, même quand les volumes étaient absolument substantiels pour le moins. Donc on a fait preuve de notre efficacité, du fait que ce n'était pas risqué puisqu'on avait une chaîne de traitement extrêmement efficace avec la chambre de compensation. Donc je pense que cette crise, pour nous, elle remet les choses en place, ce que nos amis américains disent « back to basic », c'est-à-dire que le risque, ça a pris et que quand on traite sur des marchés réglementés, eh bien, on est sûr que là, notre argent, quand je suis vendeur, on retrouvera l'argent. Et quand je suis acheteur, on aura bien les titres.
D'accord. Donc, les grandes dérives ont été, bien sûr, sur les marchés qui n'étaient pas organisés.
Absolument.
D'accord. Et généralement, dans le grand public, enfin, dans l'image qu'en a le grand public, il y a une confusion entre ces deux secteurs, bien sûr. Mais ça, bon, je veux dire qu'on n'y pourra pas grand-chose.
Non.
Il n'y a que les professionnels qui voient exactement la différence. Le grand public met les deux acteurs dans le même sac, si je puis dire, malheureusement. Alors, voilà pour ce qui est donc de votre sentiment sur la crise financière. Donc, vous, de votre côté, il vous semble que donc la place financière de Paris représente un modèle, en quelque sorte. Le mot est peut-être fort, mais enfin, en tout cas, a fait ses preuves en termes de régulation, de contrôle de marché, de surveillance. En quoi les autres places financières ont dérivé par rapport à la régulation, par exemple ?
Moi, je pense qu'il y a plusieurs choses. Donc, même si il faut sans doute aussi qu'on balaye devant notre porte, parce que tout n'a pas été parfait, bien évidemment. Donc, il faut continuer à travailler et améliorer même la réglementation de la zone européenne, hein, même si elle a fait preuve de plus de robustesse que la zone américaine. Je pense que, contrairement aux Américains, on n'avait pas d'entité peu ou pas contrôlée comme les brokers comme Lehman et Bear Stearns, qui ont fait faillite, hein, comme chacun le sait. Donc, on avait des contrôles plus drastiques sur nos banques et nos intervenants.
Ça, c'est effectivement un point très fort. C'est-à-dire quand même, il y a une tradition de contrôle du secteur bancaire en France, en Europe aussi, mais enfin en France surtout, qui est quand même là et qui a fait ses preuves au moment où on est rentré dans le dur de la crise, quoi.
Tout à fait. Donc la banque, on voit bien que les toutes les réglementations, l'autorégulation aux États-Unis a été un des sujets de préoccupation, si, que ce soit pour la banque, les brokers ou l'assurance. L'assurance AIG qui s'est transformée en gigantesque hedge fund avec des arbitrages de CDS, dont on voit le désastre aujourd'hui. La régulation, je pense qu'elle montre que l'effet de levier, c'est ce qui explique, qui a été beaucoup plus contrôlé par les autorités réglementaires en Europe que ça ne l'a été aux États-Unis. L'effet de levier était beaucoup, beaucoup trop important sur les brokers. Puisque la liquidité est abondante, donc les gens s'endettaient rapidement, puisqu'il y avait beaucoup de prêteurs. Aujourd'hui, on a un problème de remboursement, on voit bien que tout ça a été mis en...
A dérapé
complètement, oui, absolument.
Bien, écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y a un point sur lequel vous voulez insister que je n'aurais pas vu ? Votre optimisme fait du bien. Le fait de savoir que la place financière de Paris est plutôt bien placée, c'est plutôt bien comporté à travers cette synergie entre Paris Europlace et puis donc Nax Euronext, en particulier donc Euronext, est extrêmement réconfortant. On a envie de penser que vous voyez juste. Enfin, en tout cas, vous êtes un des observateurs privilégiés. Et donc, les premiers signes, les signaux faibles, comme on dit en économie, vous êtes dans les premiers à les sentir. Et effectivement, cette logique de reconstitution des stocks plaide pour un redémarrage peut-être plus fort que ce que peut laisser penser, on va dire, les marchés qui toujours, bien sûr, ont tendance à surévaluer dans un sens comme dans l'autre.
En conclusion, si vous me permettez, je voudrais donc dire qu'effectivement, cette crise, elle met en relief tout ce qu'apportent les marchés réglementés, organisés, et que le fait que maintenant on est fusionné avec NYSE pour donner NYSE Euronext nous rend encore beaucoup plus performants qu'avant. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on va vers une sortie de crise. Alors quand, j'en sais rien. Il faut que les marchés réagissent et prennent conscience du fait qu'on commence à avoir quelques signes optimistes. Alors, j'espère qu'ils ne vont pas disparaître. Donc j'espère que j'ai raison. À mon avis, aujourd'hui, on est sur des prix de certaines valeurs cotées de très bonne qualité, alors en faisant un tout petit peu de sélection, mais qui sont des prix extrêmement attractifs. Et je pense qu'on n'est pas loin d'être sur un redémarrage de la bourse. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce sont des bonnes conditions d'achat. C'est mon sentiment. Alors, est-ce que ça peut encore rebaisser dans les 3 semaines qui viennent
c'est possible
aussi. Je pense que, comme d'habitude, la bourse est un investissement de long terme. Donc si c'est pour investir, passer de liquidité à 6 mois, ça me semble risqué. Si c'est pour faire de l'investissement long terme, je pense que c'est le bon moment de commencer à regarder les marchés actions.
Vous reprenez un petit peu donc les conclusions du président du Cercle Turgot, Jacques-Henri David, qui dit dans son article, dans sa contribution, n'ayez pas peur.
Absolument.
En tout cas sur le long terme.
Oui, pense qu'aujourd'hui, l'autre enseignement de la crise, c'est qu'il faut favoriser l'investissement long terme, l'épargne longue, et si possible l'épargne qui finance la véritable économie, comme dit notre président de la République, mais avec un caractère durable, donc tout ce qui est green, puisqu'on voit bien qu'aux États-Unis, le président Obama a une vraie vocation sur le green. Donc l'action... À mon avis, acheter de l'action aujourd'hui dans un souci de développement durable, long terme.
Bon, écoutez, c'est un message extrêmement engageant. Je suis convaincu que nos auditeurs auront bien entendu ce message. Nous étions donc avec Vincent Remey, qui représentait Nax Euronext, le premier acteur mondial en tant que place financière et de bourse. Merci à vous, Vincent Remey.
C'était
un plaisir de vous recevoir et on se reverra dans quelques temps pour voir si les marchés ont pris 20-30%.
À votre disposition, c'est un plaisir.
Merci, à bientôt.